Il est 18h30 à Paris, c'est l'heure du débat. Avec vous, Romain Ozoui, bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique, on va essayer de savoir ce qui se passe du côté de l'Élysée dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car le feuilleton politique français se poursuit. 5 jours après la chute du gouvernement Barnier, Emmanuel Macron, ce lundi, a continué ses consultations en vue de la nomination d'un Premier ministre. Il a reçu les communistes, les écologistes et les députés du groupe Liotte. Et selon Marine Tondelier, la patronne des écologistes, eh bien le chef de l'État veut une réunion, je cite, de toutes les forces politiques. Oui, mais comment y parvenir? Notre question ce soir, quel sera le profil du futur Premier ministre? Comment lâcher du lest à gauche sans se mettre la droite à dos et vice-versa? Bref, comment trouver un chef de gouvernement qui ne risque pas d'être censuré? Où est la clé de ce casse-tête politique? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Frédéric Savicky, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, face à vous, Emmanuel Rivière, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, consultant en stratégie de l'opinion et notre troisième invité également en studio avec nous ce soir, Stéphane Fournier, bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane Fournier, pardon.
Fournier.
Il y avait une faute alors. Analyste politique à l'Institut de sondage Cluster 17, merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord... Frédéric Savicky, quel est votre ressenti sur la méthode Macron? Parce qu'il est à nouveau au centre du jeu politique, alors ce qui n'est pas pour lui déplaire. Il reçoit donc depuis vendredi à l'Élysée. On commence à prendre du retard sur la nomination du Premier ministre, parce qu'un temps c'était annoncé avant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame samedi. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça dure, selon vous?
Oui.
Ouais.
Personnellement, j'avais été étonné qu'on annonce la nomination d'un ou d'une première ministre quasiment 3-4 jours après l'adoption de la motion de censure. Bien sûr, il y a une contrainte de calendrier avec la possibilité, la nécessité de voter une loi budgétaire, mais il était difficilement quand même concevable qu'on puisse nommer sans préalablement avoir fait une large consultation avec les partis politiques si le président voulait éviter, et puis l'ensemble des acteurs politiques et les Français de nouveau être confrontés à un renversement de gouvernement. Donc, j'ai l'impression que le président a compris qu'il fallait sortir de ce qui avait été fait plutôt donc au mois de juillet août, à savoir finalement une tentative de conciliation des bonnes grâces du Rassemblement national et une exclusion a priori de toute participation d'un ou des partis de gauche au gouvernement. Donc a fortiori, si on adopte désormais cette stratégie, forcément ça prend du temps, il faut discuter, négocier avec les différents responsables des partis politiques, et je pense qu'on en est encore sûrement pour quelques jours.
Mais parce que quand un temps ça a été évoqué que Emmanuel Macron nomme avant samedi un Premier ministre, est-ce qu'on pouvait penser qu'Emmanuel Macron avait un peu le coup d'avance, puisque la censure était tellement attendue que ces consultations, est-ce qu'il ne pouvait pas les mener auparavant pour dégainer plutôt un non?
Bah oui, sauf que j'ai pas l'impression que ces consultations aient eu réellement lieu avant, ou en tout cas les responsables des partis politiques qui sont exprimés, en particulier à gauche, mais pas seulement, n'ont à aucun moment fait état de réelles discussions avec le président. Et en plus, il fallait quand même préserver, j'allais dire, la façade, à savoir ou les apparences, à savoir le fait qu'il n'était pas absolument certain que le gouvernement soit renversé. Ou en tout cas, le président pouvait difficilement engager des négociations qui auraient immanquablement été publiques avec des responsables de parti, actant en quelque sorte avant le vote que Michel Barnier allait être censuré, puisque la décision du Rassemblement national officiellement n'est intervenue que le lundi, deux jours avant, et qu'en plus, le Premier ministre avait laissé vaguement penser lors de son intervention télévisée le mardi qu'il pouvait peut-être encore sauver son gouvernement, ce que personne véritablement nous croyait, mais on était obligé de faire comme si tout n'était pas encore décidé.
Et Emmanuel Rivière, alors la méthode sur le fond, nous dit Frédéric Savicky, a changé par rapport à ce qui a précédé la nomination de Michel Barnier, le Premier ministre démissionnaire, parce qu'il y a effectivement le RN qui est plus au cœur de l'accord politique, on va y revenir, mais est-ce que sur la forme, les choses ont changé? Quand je dis qu'Emmanuel Macron reçoit, comme il a reçu vendredi, les chefs de son parti, il a reçu lundi, aujourd'hui, les écologistes, les communistes, notamment, ça avait duré, avant la nomination de Michel Barnier, 51 jours.
Non, mais c'est en ça que la méthode n'a pas tant changé que ça. Elle a changé pour les raisons qui viennent d'être évoquées. En fait, il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est que le président de la République continue à s'en occuper. Et à s'en occuper en recevant successivement les différents représentants des formations politiques, et non pas tous ensemble. Ça ne va pas de soi. La Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il le choisit. Il y a d'autres contextes. À l'issue des dernières élections en Espagne, par exemple, le parti arrivé en tête, c'était le Parti populaire. On s'est d'abord tourné vers lui pour tenter de constituer une majorité. Et puisqu'il a échoué, finalement, on s'est retourné vers le Premier ministre sortant, M. Sanchez, qui, lui, a pu, avec l'accord des indépendantistes, constituer une majorité. Mais c'est à charge, finalement, des responsables de parti de voir s'ils constituent leur majorité. Alors, évidemment, le chef de l'État en Espagne, c'est un roi, c'est pas un président de la République élu, ça change la donne. Mais là, on peut se demander dans quelle mesure Emmanuel Macron, qui est un tout petit peu à l'origine de ce qui est devenu un problème, doit encore à ce point faire partie de la solution. Je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs complètement dans son intérêt et je ne suis pas sûr que ça aide à ce que le calendrier soit plus rapide, que soit le président de la République qui soit au centre des consultations. Mais l'alternative étant que les partis se parlent directement entre eux.
Mais est-ce que c'est parce que justement ce n'est pas du tout l'ADN d'Emmanuel Macron de s'effacer ? Est-ce qu'il n'est pas incapable de ne pas être au cœur de cette décision
politique ? Oui, c'est en cela que la méthode n'a pas complètement changé. Puis, l'autre aspect, je ne sais pas à quel point c'est ou pas dans la méthode, c'est que la question quand même centrale, c'est celle de la feuille de route, finalement. C'est autour de quoi on se met d'accord. Et là, il y a deux manières de voir les choses. Moi, je n'ai pas bien vu si on avait choisi. Il y a un contexte d'inquiétude et en gros, comment on fait pour doter le pays d'un budget le plus rapidement possible, au-delà de la loi qui va permettre de fonctionner avec le budget de 2024 reconduit. Et il y a une inquiétude de l'opinion, et on pourrait dire des opinions, parce que je pense qu'Emmanuel Macron en tête pas simplement les Français qui s'inquiètent, mais les acteurs économiques dont on souhaite que le plus vite possible ils reviennent à un niveau de confiance dans les Français suffisant. Et où est-ce qu'on doit se mettre d'accord sur une feuille de route commune? Et là, c'est beaucoup moins évident d'arriver à mettre d'accord les composantes qui permettent d'aboutir à la moitié plus un des députés sur une feuille de route commune.
Vous avez résumé l'enjeu, effectivement, du profil de ce futur Premier ministre, Stéphane Fournier, quand le chef de l'État dit qu'il veut une réunion de toutes les forces politiques. Ça, c'est ce qu'a dit Marine Tondelier, la patronne des écologistes. C'est qu'une posture, parce que ça veut dire que on repose la question du gouvernement de coalition.
C'est pas forcément une posture dans la mesure où il n'a pas vraiment d'autre choix. C'est-à-dire que on voit bien son tropisme à lui, ce serait de retourner sur un scénario avec un Premier ministre soit issu de LR, soit issu de sa coalition, mais qui ne fait pas une majorité, on l'a vu, et surtout qui a un problème principal, c'est que dans ce scénario-là, vous dépendez de Marine Le Pen et du Rassemblement national.
Et ce qui s'est passé la semaine dernière montre que les lignes rouges du RN sont très importantes. Parce qu'on rappelle que Michel Barnier a lâché beaucoup de lest.
Elles sont d'autant plus importantes, à mon avis, que Marine Le Pen a un autre calendrier en tête, qui est le calendrier judiciaire. Et donc, elle a calqué son calendrier politique sur son calendrier judiciaire. Je suis intimement convaincu qu'elle veut, elle l'a déjà évoqué d'ailleurs, elle l'a dit, elle veut une présidentielle anticipée, comme Jean-Luc Mélenchon veut une présidentielle anticipée.
Parce qu'on rappelle que sa peine d'inéligibilité, confirmée ou non, ce sera fin mars.
Fin mars, la réquisition est de 5 ans, et en vérité, elle a utilisé la très bonne expression, peine de mort politique. Et en réalité, c'est vrai que, vu la stratégie de normalisation du RN, qui serait largement remise en cause par une telle condamnation, elle a tout intérêt à jouer son va-tout d'ici l'éventuelle condamnation pour modifier et accélérer le calendrier. Donc ça, c'est le premier point, effectivement. Ouais. Donc, Emmanuel Macron, il a essayé avec Michel Barnier, qui était admis, entre guillemets, qui avait l'aval du Rassemblement national. Boum.
Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que finalement,
il ne reste plus que cette option.
Il n'y aura pas de Premier ministre LR ? Parce qu'effectivement, encore une fois, on cite Marine Tondelier, parce que c'est elle qui s'est exprimée à l'issue de son rendez-vous aujourd'hui avec Emmanuel Macron, et elle a dit que le président français avait affirmé que la solution ne pourrait plus reposer sur un accord avec le Rassemblement national. Donc, si on prend le même et on recommence,
exactement,
il va se passer la même chose.
Donc, il va falloir qu'il trouve une nouvelle synthèse, et dégager une majorité, ça passe forcément par et de gauche et de droite. Ouais. Donc, il va falloir trouver cette équation qui est très périlleuse, dans laquelle, effectivement, il est en train de s'embourber, à mon avis, Encore une fois, c'est très risqué, très périlleux. D'ailleurs, on voit que l'opinion, je termine là-dessus, l'a jugé responsable en grande partie de l'échec de Michel Barnier. C'est-à-dire que le choix même de Michel Barnier lui est revenu en boomerang dans l'opinion comme un mauvais choix, puisqu'évidemment, quand il tombe, ça reste la responsabilité du président de la République aussi. Donc, à mon avis, il s'engage sur un chemin très, très chaotique.
Frédéric Savicky est de gauche et de droite. Alors ça, c'est l'histoire d'Emmanuel Macron. Mais ça pourrait ressembler à quoi au gouvernement ?
Et de gauche et de droite jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si on fait la somme entre les députés Rassemblement National et LR, ça ne fait pas une majorité. Donc on pourrait tout à fait imaginer que LR reste à l'extérieur de ce gouvernement, éventuellement vote ou ne vote pas certaines dispositions de loi, de même que LFI, d'ailleurs ça avait déjà été annoncé au mois de juillet, ne participe pas au gouvernement et que soutienne les positions les plus à gauche. C'est-à-dire que on pourrait dire un gouvernement qui aille peut-être des écologistes, voire des communistes, des socialistes, et puis des centristes, et puis des gens de centre-droit. C'est pas non plus totalement sur le papier impossible aujourd'hui. Je pense qu'il y a un élément, évidemment, qui bloque, c'est que symboliquement, on a évoqué le nom de François Bayrou, on a évoqué le Cornu, des gens comme ça, c'est que symboliquement, c'est quand même très très difficile, et pour les socialistes et les écologistes, et vis-à-vis de l'opinion, que d'aller chercher comme Premier ministre quelqu'un qui incarnerait le camp d'avant, le camp des perdants, c'est-à-dire le camp macroniste. Donc, moi, il me semble que tout pousse dans un système comme cela. Si on veut s'émanciper du Rassemblement National, et on sait, et je pense que c'est pas que Marine Le Pen qui a le calendrier en tête, c'est aussi le président. Le président nous explique qu'il ne démissionnera jamais. Mais si la situation politique est coincée, il peut être contraint de le faire. Il n'y aura pas d'autre échappatoire.
Si les chutes de gouvernement se succèdent.
Donc désormais, sa stratégie, c'est quand même effectivement de ne pas fournir le moindre prétexte à ceux et celles qui, et en particulier au Rassemblement National, exigerait la démission du président. Donc, moi, il me semble qu'on va plutôt vers la nomination d'un ou d'une première ministre de gauche, évidemment pas insoumis, probablement socialiste, ou socialo-compatible, ou peut-être écologiste, j'en sais rien.
Donc, des gens qui ont censuré la précédente équipe, alors ?
Ah qui ont censuré Michel Barnier, qui était un premier ministre.
Ça, c'est pas un problème
LR,
pour le président français ?
Écoutez... Ils ont censuré un premier ministre qui avait fait quand même énormément de concessions au Rassemblement National et qui, depuis le début de sa nomination, avait clairement en tête cette idée qu'il fallait, en quelque sorte, obtenir, avec l'assentiment d'ailleurs du président, parce qu'il n'aurait pas nommé Barnier, la neutralité, en quelque sorte, du Rassemblement National, escomptant que le Rassemblement National, dans une stratégie de normalisation, allait effectivement ne pas renverser le gouvernement. Ce scénario-là s'est révélé complètement faux. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron avait justifié la nomination de Barnier, en disant « Lui, au moins, il ne sera pas renversé. » Tu parles. Il a été renversé au bout de 3 mois sur un texte très important, puisque c'est un texte budgétaire. Mais c'était bon. Donc, moi, il me semble que j'ai pas de nom en tête, mais c'est plutôt vers cette solution-là. Alors, que va faire l'LFI ? Parce que ça, c'est quand même évidemment au cœur du...
Bon, éclatement de la gauche.
Est-ce que LFI va délibérément rompre l'alliance à gauche et puis prendre prétexte de la nomination d'un Premier ministre socialiste pour renverser, au risque effectivement de faire le jeu de la droite du Rassemblement National ? Bon, on peut aussi en douter. C'est-à-dire que je pense que LFI participera pas au gouvernement, pourra éventuellement ne pas voter certains textes qui iraient contre ses principes, son programme, etc. Mais réfléchira quand même à deux fois avant de renverser le gouvernement. Donc, moi, je ne pense pas que la situation soit... Alors, la situation est difficile, elle est compliquée, elle risque de faire le jeu du Rassemblement National, mais elle ne me semble pas aujourd'hui, effectivement, totalement bloquée si Emmanuel Macron, effectivement, sort de la stratégie qui était... Là, je ne parle pas de sa méthode, mais la stratégie politique qui était la sienne au mois d'août.
Si les socialistes vont au gouvernement, ils rompent l'accord avec la France insoumise ?
Bah, c'est ce que proclame Jean-Luc Mélenchon, c'est, ça dépendra de ce qu'ils proposeront comme texte et pour quoi faire. Je pense qu'on peut imaginer, je veux dire, d'abord il y a le budget, il y a la question qui est le point, le nœud, qui est la question des retraites. Bon, il me semble qu'on est en train d'assister quand même un peu à un bouger là-dessus, c'est-à-dire l'idée qu'avancée par Fabien Roussel, qu'on pourrait, y compris Sophie Binet l'a dit, on pourrait faire une conférence sociale et envisager d'abord des enjeux sur comment financer une réforme des retraites, c'est-à-dire un retour sur la retraite à 64 ans, en même temps qu'on envisagerait pas simplement une abolition de cette loi. Bon, bah, ça, c'est peut-être quelque chose qui peut faire aussi, on pourrait dire, avancer les choses à gauche et avec les organisations syndicales.
Alors, c'est intéressant les retraites, parce qu'effectivement, l'abrogation de la réforme des retraites, c'est un souhait des socialistes, et c'est notamment un frein, et c'est pour ça que j'évoquais Bernard Cazeneuve, à la nomination potentielle de Bernard Cazeneuve, quand il en a été question, l'ancien Premier ministre, avant que Michel Barnier soit nommé. Emmanuel Rivière, est-ce que les socialistes au gouvernement, c'est une piste vers laquelle on se tourne, selon vous ?
Bon, en tout cas, c'est à l'étude, mais la gauche est profondément divisée sur ces questions, pour des raisons qui sont... peut-être des raisons de tactique. Stéphane Fournier évoquait tout à l'heure la stratégie de Marine Le Pen de provoquer des élections présidentielles, une élection présidentielle anticipée, en poussant Emmanuel Macron à la démission. C'est aussi, de manière très claire, c'est sur la table, encore plus fortement d'ailleurs dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon que dans celle de Marine Le Pen, l'option qui est privilégiée aujourd'hui. La France insoumise dit... il ne faut pas y aller, ça n'a pas de sens en fait, on ne pourra rien faire avec les macronistes, il faut la présidentielle. Ce n'est pas la ligne du Parti Socialiste, ce n'est pas la ligne, on l'a vu, de Marine Tondelier.
La preuve, effectivement, ils ont été reçus par les socialistes, par Emmanuel Macron, et la France Insoumise a boudé son invitation.
Mais c'est un débat qui divise profondément la gauche. C'est-à-dire, c'est pas simplement une question tactique. C'est vraiment la question de fond. C'est est-ce qu'on peut y aller ou est-ce que ce serait se compromettre ? Est-ce que ça fait pas le lit du Rassemblement national d'être dans une espèce de grande alliance qui n'accouchera de pas grand-chose parce que on n'est pas d'accord ou sur très très peu de choses ? Ou bien est-ce qu'il faut prendre nos responsabilités ? Et c'est un peu compliqué d'ailleurs. Plein d'égards, c'est presque une dialectique entre le court terme, avancer sur un certain nombre de sujets, les retraites en feraient partie, évidemment que les retraites en feraient partie, ou attendre sur son Aventin, mais avec le donner le sentiment, mais finalement, de laisser à nouveau le champ libre à une option qui serait une option à droite, ce qui n'est pas ce pourquoi les électeurs de gauche ont l'impression d'avoir voté. Voilà, donc on retrouve... vieille dialectique entre l'éthique de responsabilité, qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant et qu'est-ce qu'on doit finalement accepter, signes de conviction qui consisterait à rester pur mais à ne pas faire grand-chose.
Mais ce sont les fameuses concessions réciproques qui ont été évoquées par les socialistes, qui ont dit OK pour des négociations, mais sur la base de concessions réciproques. Donc ça veut dire, en gros, le président français qui lâcherait du lait sur les retraites, et en échange, sur quoi les socialistes seraient OK pour lâcher du lait pour rejoindre le gouvernement.
C'est les groupes qui composent...
Comme le remarquait Frédéric Savicky, il y a un bouger. Ouais. De tout bien, on voit bien d'ailleurs le Nouveau Front Populaire n'est pas revenu à la charge en disant « Ah ben, regardez, Barnier est tombé. Nous, on a toujours Lucie Casté, qui est toujours là, qui est toujours disponible, qui a travaillé tout l'été. »
Chacun avance.
Là, il y a un bouger. Donc, il y a un peu une petite dislocation. Elle est compliquée quand même à assumer, y compris d'un point de vue purement démocratique. Les députés socialistes, ils ont été élus avec des voix qui seraient allées sur LFI s'il y avait des candidats LFI dans leur circonscription, et inversement. C'est-à-dire, voilà, évidemment, il y a une répartition des sièges entre les différents partis, mais tous ces gens-là ont été élus dans une alliance, donc c'est pas si facile que ça non plus de la disloquer, cette alliance. Et ça fait monter un peu le prix des enchères de part et d'autre, ce qui rend quand même vraiment compliqué. Ouais. Et en face de ça, il y a la gravité de la situation et cette inquiétude que j'évoquais tout à l'heure, mais qui là aussi casse la gauche. Je parle sous le contrôle de Stéphane Fournier, mais dans un sondage que Cluster 17 a rendu public la semaine dernière, on voyait que les sympathisants insoumis étaient plutôt ravis de la motion de censure et de la chute du gouvernement Barnier et s'en réjouissaient, alors que les sympathisants socialistes étaient plutôt dans l'inquiétude et la crainte des conséquences pour le pays.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Quel sera le profil du futur Premier ministre français? Alors, c'est la question qui agite tout le pays, cinq jours après la chute du gouvernement Barnier, alors qu'Emmanuel Macron, ce lundi, a poursuivi, comme il avait débuté vendredi, ses consultations. Il les a poursuivies en recevant les communistes, les écologistes, les députés du groupe Liot, mais trois invités, Emmanuel Rivière, que l'on entendait, qui est politologue, consultant en stratégie d'opinion, Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et Stéphane Fournier, analyste politique à l'Institut de sondage Cluster 17. Stéphane Fournier, finalement, pour prolonger notre réflexion, la nomination d'un gouvernement avec des socialistes, où les socialistes seraient très présents, c'est finalement la meilleure option pour Emmanuel Macron, dans le sens où c'est là où ça a le moins de chances, finalement, d'aboutir à une censure.
Arithmétiquement parlant. Arithmétiquement, c'est déjà ce qu'il aurait fallu faire pendant l'été, d'ailleurs. C'est-à-dire que, et en plus, qu'il y avait un vrai sens démocratique, parce que, comme le rappelait Emmanuel Rivière, le sens démocratique de l'Assemblée constituée au mois de juillet, c'est le Front républicain. C'est-à-dire que le centre a été élu avec les voix de la gauche et la gauche a été élue avec les voix du centre, schématiquement. Les reports de voix ont été excellents, ça a permis de faire battre le Rassemblement national qui était annoncé vainqueur une semaine avant, il faut le rappeler. Donc, il y a non seulement ce sens démocratique, ensuite, il y a le sens arithmétique qui, effectivement, LFI ne renversera pas un gouvernement de centre-gauche ou de centre-modéré, avec des socialistes.
Qui plus est avec les voix du RN.
Voilà, qui plus est avec les voix du RN. Effectivement, ça fait une majorité. Bon, ça c'est ouais. C'est le bon sens. Et puis après, il y a la volonté politique d'Emmanuel Macron, qui, on le voit bien, a freiné des quatre fers en mois d'août sur son bilan. Sa grande crainte, c'est que son bilan soit renversé par une assemblée, justement, par un gouvernement qui serait constitué à gauche et au centre, notamment sur la question des retraites, etc. Donc ouais. Si lui-même ne fait pas des concessions, et c'est là aussi il a un rôle central, c'est que s'il ne fait pas des concessions sur son bilan, sur sa vision politique à une assemblée qui serait constituée avec la gauche, cette alliance-là n'existera pas.
Le problème, c'est qu'il y a le risque d'avoir la censure du gouvernement avec les socialistes. Si c'est un gouvernement, on prend les mêmes, on recommence, avec notamment les Républicains. Mais c'est la même chose à l'inverse, finalement. Chacun pèse à peu près du même poids, l'Assemblée socialiste et droite.
Alors, socialistes et républicains...
Républicains, oui.
Non, parce que les républicains sont une quarantaine, les socialistes...
66.
Voilà. Oui, donc pas
mais
tout
en tout
à
cas,
fait,
et
pas
ça
tout
peut être, ça peut, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les deux forces soient sur la même ligne pour éviter d'être censurés, tout simplement. Il faut qu'ils réussissent à mettre, entre guillemets, d'accord, droite et gauche. Il n'y a pas d'autre choix.
Non, mais c'est ce que vous dites. Enfin, je pense que là, on n'en discute pas assez. C'est Renaissance, c'est Horizon, c'est le MoDem. C'est-à-dire que l'acteur central, vous dites, c'est Emmanuel Macron. Bon, Emmanuel Macron, il est hors jeu maintenant. Tout dépend de ce que va faire Gabriel Attal, de ce que va faire Bayrou, de ce que va faire éventuellement vont faire les partisans d'Édouard Philippe. C'est-à-dire que si eux acceptent d'en rabattre sur la position, c'est une véritable doxa de « on ne touche pas à toutes les mesures qui ont été adoptées, notamment en matière fiscale et pas seulement sur les retraites, depuis 2017 », il est clair que ça n'avancera pas. Il faut qu'ils acceptent que les socialistes, mais pas que les socialistes, les écologistes, les communistes, mais aussi les insoumis qui ont fait ces propositions, d'augmenter un certain nombre d'impôts, notamment sur les catégories les plus riches, de remettre en question un certain nombre d'allègements fiscaux qui ont été consentis sans contrepartie aux entreprises. Je pense que c'est là-dessus
que
ça va jouer. C'est pas seulement sur le nom.
Et vous pensez que ça peut se jouer dans la semaine, parce que c'est annoncé d'ici mercredi,
c'est mardi. Frédéric Savicky,
Emmanuel Rivière.
C'est ce sur quoi le groupe Ensemble pour la République, donc le groupe présidé par Gabriel Attal, le nouveau nom de Renaissance, c'est dans une certaine manière opposé à Michel Barnier. Ouais. C'est-à-dire au sein du socle commun, c'était leur point, leur ligne rouge. Donc s'ils ont dit non à Michel Barnier, ça pas facile de dire oui.
Ils ont dit non à Michel Barnier qui avait 45 députés. C'est-à-dire que s'ils veulent sauver en quelque sorte un gouvernement d'une censure éventuelle, il est clair qu'on ne peut pas escompter que des socialistes acceptent d'endosser la responsabilité gouvernementale si, sur des points aussi sensibles, aucun bouger n'est fait.
C'est-à-dire les socialistes sont prêts à des concessions, c'est ce qu'ils ont dit.
Alors ils sont prêts à des concessions, ils sont prêts aussi, bon, en tout cas, une concession qui est quand même importante, c'est à ne pas recourir au 49-3, hein, et donc évidemment évidemment d'ouvrir des possibilités d'amendement, ce qui laisse effectivement le champ de la négociation assez largement ouvert.
Après, un gouvernement avec des socialistes, ça veut dire quoi ? Pour que les socialistes soient satisfaits, ça veut dire s'il y a deux ministres, non. Est-ce que c'est un premier ministre de gauche ?
Mais Olivier Faure l'a dit, il a posé comme une condition, il a dit qu'il fallait que ça soit un Premier ministre de gauche. Alors après, on peut débattre, ils adorent débattre de qui est de gauche, qui n'est pas de gauche, c'est-à-dire Bernard Cazeneuve typiquement, est-ce que ça constitue la frontière à partir de laquelle ça devient admissible ou inadmissible de rentrer au gouvernement, je ne sais pas.
Mais on peut imaginer un Premier ministre de gauche non censuré par la droite ?
Oui. Oui, tout à fait, c'est possible. C'est d'autant plus possible que Laurent Wauquiez n'a pas intérêt, lui, à accélérer le calendrier. Tous.
Donc du Parti Les Républicains.
Ah bah, oui, du Parti Les Républicains.
Aucun n'a intérêt, en fait, à part Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. C'est-à-dire que c'est ce qui fait la force potentielle, d'ailleurs, d'un éventuel Premier ministre de gauche. C'est
exactement.
Que, évidemment, chaque acteur sait très bien que censurer de nouveau un gouvernement qui, là, serait constitué avec l'aile gauche, ça veut dire, pour un président, devoir démissionner. Parce que il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de possibilité de créer un troisième gouvernement, puisqu'on ne peut pas dissoudre avant le mois de juillet prochain. Mmh. Et de toute manière, même une dissolution, avec un mode de scrutin qui est le mode de scrutin qui prévaut, aurait probablement le même résultat électoral à peu de choses près, peut-être avec un rassemblement national plus fort. Donc on serait toujours dans la situation de blocage. Donc ça, c'est un élément quand même essentiel à prendre en compte dans les calculs. C'est ce qui fait d'ailleurs l'erreur rétrospective d'Emmanuel Macron, de ne pas avoir d'abord nommé quelqu'un issu du Nouveau Front Populaire à Matignon, parce que s'il avait été censuré, il aurait eu beau jeu de, à ce moment-là, changer de stratégie et, à ce moment-là, de se tourner plutôt vers l'aile droite. Mais là, c'est potentiellement ce qui fait la force, d'ailleurs, d'un gouvernement de gauche, c'est qu'il pourrait être en situation de pouvoir faire passer davantage et d'obtenir davantage avec, évidemment, ce chantage implicite ou cette menace implicite que tout renversement de gouvernement conduirait immanquablement, probablement, à des élections présidentielles anticipées.
Emmanuel Rivière, l'enjeu d'un mot, c'est tenir 6 mois. Parce qu'on rappelle, 7 mois, c'est quoi ? C'est juillet, la prochaine ?
Non, 9.
Bah, on peut pas, a priori, on ne peut pas dissoudre.
Ah ouais, alors,
moins d'un an.
Voilà, c'est ça.
Il faut passer un an après le deuxième tour. Donc ce serait plutôt
en juillet.
Personne, enfin,
7, 8, 9 mois.
En juillet, ça paraît très
très
compliqué.
Ça veut dire des élections en août, autrement dit, ce n'est pas possible.
Donc c'est pour ça qu'on dit 9 mois.
Ce sera plutôt septembre. Voilà. Et c'est là où il y a une vraie tension. Parce
qu'on ne peut pas imaginer, ce que je veux dire, c'est que est-ce que Emmanuel Macron, il imagine se projeter au-delà, ou est-ce que dans sa tête, il a déjà une prochaine dissolution ?
Bah, d'abord, je pense que ce serait très inquiétant qu'il y ait déjà un calendrier dans la tête du président de la République.
Il a rappelé lors de son allocution la semaine dernière qu'il avait un an.
Les gens qui nous écoutent
se
demandent comment le pays va être dirigé, comment on va s'occuper de ce pays avec des urgences à l'hôpital, des urgences dans les services publics, des urgences climatiques et environnementales. Et tous les jours, on réalise peu à peu qu'il peut y avoir des petits couacs du fait de cette situation qui a été créée. Donc, en fait, le président de la République a cruellement pas le temps, parce que, comme l'a rappelé Stéphane Fournier, c'est lui le responsable de cette situation-là. Et donc, c'est d'urgence là, et se donner du temps peut paraître raisonnable. Il y en a qui sont effectivement dans ce calendrier là, parce qu'ils jouent autre chose. Je pense qu'il y a une forme d'impatience qui est quand même très caractéristique de ce que nous apprennent les enquêtes sur l'état de l'opinion, c'est l'accentuation du discrédit du personnel politique dans son ensemble qui nous a mis dans cette situation.
Bien, en tout cas, quel sera le profil du futur Premier ministre ? On a beaucoup parlé d'un gouvernement avec des socialistes, alors on va dire que c'est peut-être la piste vers laquelle on s'oriente. Merci beaucoup à vous trois. Emmanuel Rivière, politologue, consultant en stratégie de l'opinion, Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, et Stéphane Fournier, analyste politique à l'Institut Sondage Cluster 17. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Claude Battista à sa réalisation. Coup d'œil à la pendule. Dans une minute, ce sera le grand journal du soir. Nous irons notamment, évidemment, à Damas au lendemain de la chute du président Bachar al-Assad. Et puis juste après, ce sera la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, Bonsoir à toutes et à tous.
Et l'élection présidentielle au Ghana, à la une.
Mamadou Boumouaria, candidat du parti au pouvoir, reconnu sa défaite. Les résultats sont d'ailleurs en train d'être annoncés. Nous serons en direct à Accra dès le début d'Afrique Soir, première édition.
Dans cette édition également, l'affaire Charles Onana.
Ce journaliste franco-camerounais jugé pour contestation du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 pour des propos tenus dans son livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise.
Et puis des combats dans l'ouest de la RDC.
Affrontement entre l'armée et des miliciens dans la province du Kwango, voisine de Kinshasa, la capitale. Affrontement qui ont fait au moins une vingtaine de victimes selon un premier bilan.
Et puis au Kenya, une petite ville rurale qui est devenue une plaque tournante de la cybercriminalité.
Et oui, c'est ce que révèle une enquête de l'opérateur de télécommunications Telco. La ville de Mulo, à 200 km à l'ouest de Nairobi, est aujourd'hui un haut lieu du crime au Kenya.